La situation est surtout inquiétante pour les Égyptiens. C'est les classes moyennes qui sont pour qui c'est le plus pénible. Les militaires ont repris en main non seulement la sécurité, mais la politique et aussi l'économie et finalement la culture. Ce qui est le plus frappant, c'est les réformes économiques qu'ils essayent d'appliquer pour avoir les prêts du Fonds monétaire international. Ça inclut de faire flotter la livre égyptienne qui a perdu du jour au lendemain la moitié de sa valeur. Ça veut dire que les classes les plus riches se sont retrouvées deux fois plus riches du jour au lendemain parce que leurs avoirs sont en euros ou en dollars. Donc du jour au lendemain, ils sont devenus deux fois plus riches. Alors, il y a une inflation, mais enfin qui n'est pas de 100%. Et l'inflation qu'on évalue autour de 20%, ça dépend de quel type de produit. Pour les gens les plus pauvres, d'une certaine manière, ils ne voient pas encore les effets du choc d'un point de vue économique parce que l'armée subventionne dans tous les quartiers la distribution de nourriture, les produits essentiels, de l'huile, du sucre, de la viande, de la farine, du pain. Donc pour les classes les plus pauvres, ils mangent dans la main de l'armée, mais d'une certaine manière, ils ont toujours un peu mangé dans la main du régime. Il y a toujours eu ce système de distribution. Ceux qui ont le plus de mal, c'est ceux qui se sentent humiliés d'aller manger ou d'aller acheter dans ces baraques au coin des rues, qui ne veulent pas aller faire la queue là-dedans, qui ne veulent pas être vus faire la queue là-dedans, mais qui n'avaient pas leurs avoirs en euros. Et ceux-là, la perte de pouvoir d'achat de 20%, ils la prennent en pleine face. C'est pour eux que c'est le plus difficile. D'un point de vue sécuritaire, on a tendance à comparer la situation aujourd'hui en Égypte avec la situation à l'époque de Moubarak. En fait, il y a deux différences. La première, c'est qu'il n'y a plus aucune compassion envers les frères musulmans. Il y a 10 ans, les gens disaient « non mais quand même, on devrait leur donner leur chance », etc. Aujourd'hui, tout le monde veut les laisser en prison. Et la situation régionale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens supportent le retour d'une certaine forme de dictature et de privation de liberté parce que le gouvernement les convainc que sinon, c'est Daesh qui rentre en Égypte. D'ailleurs, ils poussent, ils sont dans le Sinaï, enfin bon voilà. Donc c'est un peu la situation, voilà un peu à quoi ça ressemble.
Alors sur un plan plus religieux du dialogue, vous, Dominicain, vous êtes dans ce dialogue depuis très longtemps et vous dialoguez évidemment avec l'islam, en particulier avec l'université Al-Azhar, qui est toute proche de votre couvent. Comment se passe aujourd'hui ce dialogue? On a vu qu'Al-Azhar s'était pas mal rapproché, notamment du Vatican, après quelques années de tension, de froid. Le Cher est venu rencontrer le pape François. Vous sentez cette dynamique à l'œuvre aujourd'hui?
C'est évident, en fait, du côté de l'Azhar. Je ne veux pas dire les musulmans en général, ça n'a pas vraiment de sens, mais les partenaires que nous avons donc à El-Azhar, à la fois à l'université et aussi au grand imamat, donc auprès du cheikh Ahmed El-Tayeb, c'est qu'ils sont complètement désemparés et ils reconnaissent qu'ils sont totalement débordés. C'est-à-dire, un des enseignants d'El-Azhar a fait une conférence chez nous, il disait « on est lent à réagir, on est divisé pour réagir, finalement on ne fait rien », c'est-à-dire que finalement ils sont complètement désemparés. Ce sont les premiers à souffrir de l'image épouvantable que l'islam a dans le monde depuis 50 ans et de plus en plus ces dernières années. Ils sont les premiers, ils sont complètement désemparés. C'est-à-dire que malheureusement, beaucoup d'entre eux ont l'impression que la meilleure chose à faire, c'est de continuer à faire exactement ce qu'ils ont toujours fait. Or, en privé, ils vous disent « ça ne marche plus », mais ils ne savent pas quoi faire. En fait, ils sont surtout complètement désemparés.
Mais justement, vous, votre travail de Dominicain, est-ce que vous pouvez les aider à faire face finalement à cette crise d'identité ?
Nous, on est tout petit, on est très peu. C'est pas, comment dire, la façon la plus efficace dont je peux, en tant que directeur de l'IDEO, avec une équipe de chercheurs derrière moi, la façon la plus efficace que je peux faire pour aider les professeurs des Lazars que je rencontre, c'est de les mettre en contact avec le monde extérieur. Parce qu'il y a aussi, il faut voir qu'ils ont été longtemps complètement coupés du monde. Je passe mon temps à mettre en rapport des gens avec les uns avec les autres. Des chercheurs avec des chercheurs, des journalistes avec des imams. Les gens viennent à l'IDEO pour nous dire « on veut contacter Lazar ». Et on a l'impression que c'est une espèce d'entité, une citadelle incompréhensible. Donc voilà, ça c'est le gros de mon travail, c'est de mettre en contact les gens pour que ce que les profs des Lazars ou les étudiants des Lazars ont à dire puisse être entendu dans des cercles dans lesquels ils ne sont absolument pas entendus habituellement.
Vous avez parlé de l'image de l'islam très négative depuis des années. Elle l'est dans nos pays occidentaux, en France en particulier. On sait que l'islam est aussi instrumentalisé. Quel regard vous portez un peu sur ces débats, sur l'essentialisation, l'identitarisme qui font qu'on n'arrive pas sereinement, tout simplement, à envisager l'autre, à discuter avec lui ?
Soyons complètement honnêtes, l'identitarisme est surtout une ignorance. C'est-à-dire qu'on a affaire à de la bêtise monstre, de l'ignorance crasse, des gens qui ne connaissent rien de leur tradition, rien de leur religion, rien de leur tradition spirituelle. Et la seule chose qu'ils savent, c'est je suis chrétien et la France est chrétienne, je suis musulman et l'islam est la vérité. Et le résultat, c'est un choc des ignorances. Enfin, il faut quand même être. Ça n'a quand même pas grand-chose à voir avec la grande tradition de l'islam. Ça n'a rien à voir avec la grande tradition du christianisme. Après, de l'instrumentalisation ou du discours identitaire, c'est une espèce de cache-sexe grotesque à de l'ignorance brutale et vulgaire. Et voilà, les mots ne sont pas assez pour décrire l'état de délabrement intellectuel d'une majorité de personnes qui se rattachent à des symboles, ils se rattachent à des slogans, ils se rattachent à des choses...
À quoi c'est dû selon vous? C'est quoi? C'est à une perte du sens du religieux en général, à un manque de culture, à une idéologie véhiculée par certains politiques? C'est quoi?
Je pense qu'on a affaire à la trumpisation quand même de l'islam et la trumpisation de l'Occident. Il faut quand même, voilà, appelons les choses par leur nom. La première chose à faire, là, c'est... Éducation, offrir des bourses, faire voyager les gens, les faire se rencontrer, organiser. On a une responsabilité énorme. Ici, en tant qu'ordre dominicain, on se réunit pour réfléchir sur notre mission. C'est une mission, on a des structures pour éduquer les gens, les faire se rencontrer, organiser ne serait-ce qu'un dîner entre des gens, une fête où tout le monde se rassemble, faire se rencontrer les gens. Et puis les faire voyager, leur faire toucher du doigt les réalités ailleurs plutôt que de vivre sur des fantasmes, et puis diffuser un maximum de connaissances, de recherches, de sciences. C'est ça la réponse, mais le problème, c'est que poser une bombe ça prend 10 minutes et éduquer quelqu'un ça prend 10 ans, donc il y a un moment on est un peu dépassé, et je dirais c'est un peu comme El Azhar, on est un peu dépassé, c'est-à-dire on ne sait pas quoi faire pour éduquer et transmettre tout ça.